RCF.
Les invités de RCF forment ce qu'on appelle dans les églises chrétiennes un couple mixte, un terme qui n'est pas très beau pour dire cependant tout l'amour, le respect, le dialogue qu'ils vivent au quotidien. Anne et Daniel Kremer, merci de partager votre parcours spirituel au micro de RCF aujourd'hui. Vous êtes mariés depuis 2 ans, vous êtes installés à Bourg-en-Bresse depuis quelques mois, vous avez initié un temps mensuel de prière œcuménique chrétienne avec les chants de la communauté de Thésée. Anne, vous êtes professeure de français langue étrangère et Daniel, vous êtes chargée de mission, projet jeunesse pour l'Église protestante unie de France. Et donc vous êtes l'une catholique et l'autre protestant. Peut-être une précision, Daniel, sur votre poste de chargée de mission pour ce projet jeunesse de l'Église protestante unie de France.
Oui, alors j'ai été embauché récemment par l'Église protestante pour contribuer à l'organisation d'un rassemblement de jeunes qui s'appelle Le Grand Kiff et qui a lieu tous les 3 à 5 ans et qui s'adresse aux jeunes de 15 à 30 ans de l'Église protestante et sur le seuil de l'Église protestante pour vivre un temps de fête, de rassemblement entre un camp et un festival pour rassembler, fédérer, donner un élan commun pour la jeunesse de l'Église.
Donc 2025.
2025, l'été 2025, tout à fait.
Oui. Avec un lieu déjà décidé.
Oui, avec un lieu déjà décidé, ce sera aux alentours de Bergerac, sur un site tout particulier, puisqu'il appartient aujourd'hui à la Fondation John Bost, qui est une fondation qui accueille des personnes en situation de handicap. Et donc, ils ont un site qu'ils vont mettre à disposition pour le Grand Kiff.
On aura l'occasion d'en reparler.
Avec joie.
Alors, vous êtes tous deux, Daniel et Anne, issus, nés d'une famille chrétienne, mais pas de la même confession. Anne, comment avez-vous grandi, vous, dans la foi catholique ?
Oui, moi j'ai grandi dans une famille catholique. J'ai été baptisée très très jeune, très petite, et ensuite j'ai pu découvrir la foi avec une vie de paroisse et puis différentes activités, celle de l'éveil à la foi dans un premier temps, puis au sein de différents mouvements. J'ai participé à des camps assez dès que j'ai pu, donc l'Action catholique des enfants, voilà. J'ai été membre d'un groupe MEJ, mouvement eucharistique des jeunes, donc avec des rencontres régulières. Avec d'autres jeunes et puis ensuite j'ai participé à différents camps d'aumônerie tout au long de mes années collège et lycée qui m'ont donné des lieux et des occasions de découvrir la foi et de l'approfondir et de la partager avec d'autres jeunes.
Daniel, donc famille protestante.
Oui, moi j'ai grandi dans une famille de tradition protestante bien ancré, je dirais, dans le paysage du protestantisme, puisque, bon, entre autres, mon père est pasteur, et donc c'est vrai qu'on a grandi avec mon frère et ma sœur dans cet univers-là de l'Église protestante de l'intérieur, où j'ai participé très jeune à l'école biblique, des camps qu'on pourrait dire camps d'aumônerie, mais des camps de jeunes avec la paroisse, mais aussi avec des organismes divers et variés pour faire des camps d'été, des camps d'hiver aussi, des camps de ski. C'est quelque chose qui a beaucoup marqué mon parcours et qui m'a beaucoup enrichi dans ma foi, dans les rencontres, dans ces temps forts avec d'autres jeunes, dans le témoignage et l'expérience commune. Et puis, après ça, j'ai aussi eu l'occasion de m'engager dans le scoutisme avec les éclaireuses et les éclaireurs unionistes de France, localement, avec des groupes, puis sur le plan régional pour accompagner des responsables, et puis sur le plan national. Pendant quelques années, je m'occupais d'une commission qui s'occupe de la vie spirituelle. Donc ça a été un engagement fort aussi qui m'a permis de mettre des mots sur ce en quoi je crois et puis d'accompagner d'autres personnes pour faire vivre des moments spirituels, des moments de louange avec les enfants qui leur sont confiés.
La foi se raconte dans Témoins.
Oui, donc l'un comme l'autre, vous avez grandi aussi grâce ou avec d'autres jeunes, ça montre que tout seul, c'est plus compliqué.
Oui, tout à fait. C'était pour moi des rencontres toutes simples, mais à la fois très fortes, qui ont fait aussi que selon moi, la foi a pu grandir et s'ancrer dans des échanges, dans des partages et dans des moments de vie communes.
Et pour ma part, je dirais que les premières expériences fortes de comprendre que Dieu est là dans nos vies, qu'il nous accompagne, de comprendre le message de l'évangile, ça a été pendant des camps, et je m'en souviens très bien quand j'avais 11-12 ans, de recevoir ce message complètement bouleversant. Alors peut-être que c'est le fait d'être en camp, d'être plus éloigné de ses repères habituels, mais oui, il y a des expériences très très fortes, en tout cas que j'ai pu vivre grâce et avec les autres, et de se dire, mais je suis pas tout seul aussi. Je vis ma foi, ben oui, quand je vais à l'école, au collège, où je peux me sentir un peu isolé, mais là je me retrouve avec d'autres personnes et ça me permet de grandir.
Y a-t-il des personnes ou des lieux, outre les camps dont vous avez parlé, qui vous ont donc marqué plus particulièrement ?
Pour moi, clairement, c'est ma rencontre avec la communauté de Thésée, je dirais 14-15 ans, qui a été assez déterminante. J'ai découvert à Thésée un lieu de prière et de prière de façon très joyeuse, très forte, partagée avec des jeunes du monde entier avec qui on discute dans une langue ou dans une autre. Et je me suis vraiment sentie à ma place dans cet environnement-là. Et j'ai découvert aussi la richesse de la diversité des églises. Et je n'ai jamais cessé d'aller dans ce lieu. Et aujourd'hui encore, j'y vais en ayant toujours la certitude de pouvoir m'y ressourcer.
Vous, Daniel ?
Pour moi, j'associerais plutôt ce lieu à un espace que mes parents ont créé avec d'autres familles chrétiennes, où c'était un groupe mixte, protestant-catholique, environ 4 familles, où on se retrouvait régulièrement pendant l'année pour passer des week-ends ensemble. Alors avec ces familles, c'était beaucoup pour nous, enfants, des jeux, des sorties, des balades, mais aussi des moments où on allait au culte ensemble, on allait à la messe ensemble, et voilà, construire aussi des relations qui vont, je dirais, presque au-delà de l'amitié simple, presque comme des frères ou des cousins. C'est quelque chose qui m'a accompagné pendant toute mon enfance, quoi. Ce groupe-là, on partait en week-end ensemble, on partait en vacances ensemble, voilà.
Alors, on va marquer une première pause. Anne, vous avez choisi
Les Cowboys Fringants, la chanson Ici-bas, qui est déjà pour moi une chanson assez particulière en ce moment, puisque le chanteur du groupe vient de décéder. Mais c'est une chanson que j'ai beaucoup aimée à la première écoute. Et je trouve qu'en ce moment, particulièrement, elle résonne pour moi. C'est une chanson qui ne fait pas abstraction de toutes les difficultés qu'on peut rencontrer à l'échelle personnelle, à l'échelle collective. Et malgré toutes ces difficultés, c'est une chanson qui invite à garder espoir et à s'engager dans ce qu'on peut ici-bas.
Folle, où un rien nous détourne du simple instant présent, alors que tout s'envole avec le temps. Malgré la mort, celle qui frappe et qui nous fait pleurer, ou bien celle qui un jour, tôt ou tard, nous fauchera, je m'accroche les pieds ici-bas. Celui qui nous fait vivre d'espoir, qui parfois fait si mal quand on reste sur le seuil d'une trop courte histoire.
sans qu'on le veuille. Malgré la haine qui souvent nous retombe sur le nez et les caves qui s'abreuvent de ce triste crachat, je m'accroche les pieds ici-bas. Tant que mes yeux s'ouvriront, je chercherai dans l'horizon la brèche qui s'ouvre sur mes décombres, la lueur dans les jours plus sombres. Tant que mes pieds marcheront, j'avancerai comme un con, avec l'espoir dans chaque pas, et ce jusqu'à mon dernier souffle.
Cowboy Fringant qui nous invite à regarder les petites lumières un peu partout avec ce titre « Ici-bas ». Au micro de RCF aujourd'hui, Anne et Daniel Kremer, couple mixte catholique et protestant. Anne, vous nous avez dit tout à l'heure que la communauté de Thésée a marqué tout particulièrement votre chemin spirituel et encore plus, j'imagine, depuis la rencontre européenne de Thésée à Riga, où vous vous êtes rencontrés, donc Daniel et Anne. Votre amour a grandi, vous vous êtes mariés. Comment la question de la foi s'est-elle invitée, finalement, peut-être dès l'origine ?
Oui, assez Anne. Naturellement, dès notre rencontre, nous avons été amenés à nous questionner, à nous rencontrer aussi via nos confessions respectives, donc en 2016. Et depuis ce jour, c'est un sujet de partage et qui nous anime au quotidien, ou presque.
Daniel ?
C'est vrai que cette dimension spirituelle, elle nous anime chacun personnellement dans nos vies quotidiennes. Et c'est vrai que la rencontre qu'on a pu avoir tous les deux et notre amour qui a grandi, ben, il s'est aussi tissé avec cette dimension-là parmi les autres ou au travers des autres, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Et je dirais que... Alors c'est quelque chose qui nous a d'autant plus marqué et nourri lorsqu'on a cheminé vers notre mariage il y a environ 2 ans, de se dire mais finalement qu'est-ce qui nous rassemble, qu'est-ce qui diffère dans notre foi, et en se posant ces questions-là, en étant accompagné aussi pour essayer de cheminer et trouver des réponses, c'est quelque chose qui nous a fait beaucoup grandir et beaucoup évoluer dans la compréhension de l'autre, dans sa spiritualité. Et aussi, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est souvent de me dire, on a des traditions qui diffèrent, mais tout comme on a des traditions de famille aussi qui diffèrent. Et dans une rencontre entre deux personnes, il y a forcément une culture qui est différente. Mais dans notre foi, dans ce qui nous anime, dans notre compréhension du monde et compréhension de Dieu, on se sent vraiment très proche.
Approfondir votre propre foi, finalement, pour construire ce mariage chrétien ?
Oui, je pense notamment qu'à l'occasion de la préparation de notre mariage, on a été amené à se poser beaucoup de questions, et sans doute beaucoup plus que si on avait eu un mariage catholique-catholique ou protestant-protestant de par cette dimension œcuménique.
Est-ce que le mot concession fait partie de votre vocabulaire, alors dans la vie au quotidien, mais aussi dans la vie spirituelle ?
Pour ma part, c'est pas que je le bannis de mon vocabulaire, mais ça fait vraiment pas partie de mon cheminement. Sans vouloir juger ou critiquer, des fois on peut être étonné lorsqu'on rencontre des couples mixtes qui disent je fais l'effort de t'accompagner au culte, ou je fais l'effort de t'accompagner à la messe. Je dirais que pour nous c'est plutôt une joie à chaque fois d'être ensemble pour ce temps-là, et de vivre un culte ensemble, de vivre une messe ensemble. C'est jamais dans le renoncement de cette fois-ci je trouve pas mon compte dans la proposition du dimanche matin ou toute autre proposition. Je dirais que c'est plutôt dans cette optique-là d'engagement et de choix qui est pas dans l'absence ou le refus ou, voilà.
Peut-être la question se présentera plus difficilement, je ne sais pas si c'est le terme, mais quand il y aura des enfants, je vous le souhaite, est-ce que ça sera l'école du dimanche? Est-ce que ça sera le caté? Est-ce que...
Oui, en effet, la question se posera aujourd'hui et dans notre mariage. J'ai l'impression qu'on n'a pas dû choisir l'un ou l'autre. J'ai l'impression qu'on a choisi les deux et qu'on n'a pas à se mettre dans une case forcément et définitivement, en tout cas là de façon urgente et définitive. Et en ce qui concerne l'éducation chrétienne qu'on pourra avoir à cœur de transmettre à notre enfant... Moi, je suis pas en mesure de décider pour lui. J'aime beaucoup dans la tradition, enfin, en tout cas dans les expériences de vie de l'Église protestante que j'ai pu auxquelles j'ai pu assister. J'aime beaucoup l'idée de la présentation qu'on offre à un enfant au moment où il est jeune. Avant d'être baptisé, il est présenté à la communauté et ensuite c'est son chemin personnel qui l'amène à demander le baptême. Et cette idée de la présentation, ça me parle beaucoup et je peux imaginer que voilà, l'enfant, on aura à cœur de le présenter et de l'ouvrir à la diversité de l'Église. Et en même temps, on pourra lui donner des repères ou des éléments pour qu'il fasse son chemin et qu'ensuite il puisse trouver sa voie.
La foi se raconte dans Témoin.
Anne vient de parler d'un aspect de la vie spirituelle des protestants. Est-ce que vous avez aussi un regard dans cette vie spirituelle catholique, d'une tradition qui est peut-être absente chez les protestants et ou différente en tout cas, et que vous trouvez aussi belle?
Alors sur les choix éducatifs,
ou plus
peut-être
largement, hein.
Moins, mais ce qui me marque toujours dans l'Église catholique, c'est en tout cas dans ma compréhension, le caractère très universel du message qui peut être prononcé par le pape, ou entre autres, mais dans le message où on s'adresse, j'ai le sentiment de s'adresser au monde entier. Là où... Je trouve que parfois les protestants ont tendance à peut-être fonctionner en microcosme, alors bien sûr dans une optique d'annonce de l'évangile, mais je trouve le caractère universel du message catholique très marquant et très inspirant d'ailleurs.
Vos regards respectifs sur le dialogue œcuménique, alors suivant les régions forcément, hein, donc Anne, vous avez été en Allemagne, donc c'est un pays quand même très protestant, et puis vous étiez, avant d'être à Bourg-en-Bresse, sur Marseille, donc il y a une autre aussi culture interreligieuse ou œcuménique.
Il y a un chemin qui est en route, et je pense que ça se vit à différents échelons. Lorsque on entendait le pape il y a quelques années, qui était interpellé sur le baptême et qui disait bah voilà, il y a un seul baptême. Je crois qu'il y a cette volonté, en tous les cas, de marcher ensemble, mais cette réalité, parfois dans des communautés, que ce soit peut-être ici à Bourg-en-Bresse, bien qu'on connaisse pas très bien, ou à Marseille, où on était un peu plus présent, des fois de divergence, qui fait que oui, on se retrouve de manière bien séante ponctuellement, mais qu'est-ce qu'on vit réellement ensemble? C'est pas si évident que ça. Et moi, je trouve ça tellement dommage parce qu'on a, en tous les cas, dans notre expérience commune avec Anne, on trouve qu'il y a tellement de choses à s'apporter à travers la rencontre de l'autre confession. Donc, voilà. Pour ma part, je trouve que c'est dommage, en tous les cas, qu'on soit juste à cette étape-là du chemin. Et puis,
ça va pas assez vite.
Ça va pas assez vite ou en tous les cas, on est peut-être dans une réalité d'église, que ce soit les protestants ou les catholiques, d'église qui est pas forcément les plus dynamiques. Alors, je l'ai pas dire en déclin, mais et je trouve qu'il y aurait tellement de choses à partager et à vivre ensemble plutôt que de rester chacun dans sa propre chapelle.
Anne?
Oui, en effet, moi je trouve aussi qu'on est dans des confessions certes distinctes, mais à la fois très proches. Et il y a beaucoup de choses qui nous unissent. Et je pense que si on regardait tout ce qui nous unit, on pourrait se donner plein de petits objectifs et se rendre compte que, en mutualisant, on peut avancer ensemble à plein d'égards.
Nous marquons une seconde pause, donc avec votre choix, Daniel, Ben Mazuet, Gaffe aux autres.
Oui, c'est un titre que j'apprécie particulièrement, donc de cet artiste qui a un parcours de vie assez incroyable. Et qui, à travers cette chanson, dit ben, je suis peut-être pas une personne parfaite, mais j'essaye tant que je peux d'avoir cette attention, ce regard pour les autres, même si c'est pas toujours parfait. J'essaye.
Hey, moi de t'entendre rire, ça me suffit. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Pas trouver d'autres raisons pour la vie. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Je rêve, je rêve, je rêve. Je plaide coupable. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je suis détestable. Je sème, je sème, je sème. Tout ce que je gagne. Je saigne, je saigne, je saigne. Car je sais le mal. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres.
Le temps qu'il reste à nous aimer.
Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres.
J'ai pas toujours été de la partie. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Tu écris notre histoire et moi je fuis. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Je rêve, je rêve, je rêve. Je plaide coupable, je lève mon verre. Si tu m'aimes, tu comprendras que j'emmène ta peine. Même quand je m'évade, je saigne, je saigne, je saigne. Car je sais le mal. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres.
Le temps. À nous aimer.
Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres.
Daniel et Anne Kremer sont nos invités sur RCF, donc des jeunes chrétiens, 31 ans, couple mixte, Anne catholique, Daniel protestant. Pour vous, être chrétien aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire, Daniel ?
Chrétien aujourd'hui. Ben, je crois que le chrétien, de tout temps, il a été connecté au monde et à la réalité de l'environnement dans lequel il vivait. Je pense que aujourd'hui, un chrétien est enraciné dans sa ville, dans son quartier, dans son environnement, dans son voisinage. C'est être chrétien, pas uniquement le dimanche matin. C'est être chrétien. Dès qu'on se lève jusqu'à ce qu'on se couche. Et je crois que c'est une inspiration pour toute personne, aussi de vivre en connexion avec le monde qui est parfois bien triste sur le plan de l'environnement, sur le plan social, sur les guerres. Et c'est aussi avoir une prière ou une action pour quelque chose qui est au-delà de notre petit quotidien.
Garder l'espérance ?
Garder une espérance, oui.
Pas facile.
Non, c'est pas facile. C'est vrai que
dans le contexte que vous avez cité.
Oui, entre autres, et Anne est enceinte, et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous interpelle beaucoup de se dire, mais finalement, on va accueillir un enfant dans ce monde qui est aujourd'hui autour de nous. On entend, on a des amis qui disent, nous, en fait, on n'envisage pas d'être parents dans ce monde-là, et je crois que c'est avec la connaissance de tout ce qui nous entoure, essayer d'avoir un geste, un message d'espérance et de se dire que je pense à Martin Luther qui disait que même si la fin du monde était pour demain, je planterais quand même un pommier. Et donc moi je m'inscris aussi dans cette lignée-là de ce message d'espérance.
Anne. Être chrétienne aujourd'hui.
Je n'aurais pas dit mieux. Je pensais exactement au même mot-clé, c'est-à-dire que être chrétienne aujourd'hui, c'est porter un regard d'espérance, en effet, sur le monde, là où on pourrait avoir tant de raisons de douter, et c'est choisir de voir la vie avec tout ce qu'elle a de beau et de choisir de contribuer à la rendre belle et par nos actions, par nos paroles, par nos choix, essayer de construire le monde que les chrétiens imaginent le plus proche de celui du message du Christ.
Vivre sa foi donc en couple, c'est aller une fois à la messe, une fois au culte, comme vous le disiez, et avec plaisir ensemble. C'est aussi prier ensemble, par exemple. Bon, vous disiez, hein, donc vous êtes marqué par la communauté de Thésée. Et d'ailleurs, à Bourg-en-Bresse, depuis que vous êtes installé, vous avez proposé un temps de prière mensuel avec ces chants. Est-ce qu'aussi en couple, vous prenez le temps de prier ensemble, Anne?
À vrai dire, on n'est pas très assidus, mais on a cette ambition-là, ou en tout cas, on l'a fait. En particulier, au moment où on préparait notre mariage, on était très heureux et très, très heureux à chaque fois de prier ensemble, d'ouvrir la Bible ensemble et de partager nos sujets de prière. Aujourd'hui, il nous arrive de le faire et de se prendre des temps où on sent que ça nous fait du bien, qu'on a besoin. Pour autant, c'est pas forcément quelque chose qu'on a dans notre quotidien de façon ritualisée.
Pour conclure, est-ce qu'il y aurait un passage de l'Évangile ou de la Bible, plus généralement, qui vous accompagne, que vous appréciez particulièrement, Daniel?
Alors, il y a un passage qu'on avait choisi pour notre mariage. Enfin, on avait pris plusieurs textes, et notamment celui-ci dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 4, qui dit « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. » Et puis ça continue « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Père et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. »
Vous pouvez nous expliquer un petit peu le... Alors bon, on n'a plus 3 heures devant nous, hein, mais...
Bon, en quelques mots... Pour nous, ça a été assez central dans notre foi, de se dire, dans nos fois respectives, de se dire, mais il y a quelque chose qui est tellement fort, qui nous rassemble, qui nous dépasse et qui nous donne ce socle commun. On se place en dessous d'un père et on chemine ensemble vers une même espérance. Et on reçoit aussi, on est appelé à recevoir un seul esprit. Et au sein d'une famille, au sein d'une communauté, on est aussi appelé à former un seul corps. Et donc c'est quelque chose, en tous les cas, de particulièrement inspirant pour nous à notre échelle cellulaire de la famille, mais aussi de manière beaucoup plus globale, des chrétiens et même du monde entier.
Anne, vous voulez préciser ou vous voulez ajouter?
Oui, moi je rajouterais ce verset de Matthieu 5 qui fait écho à ce que tu dis, Daniel. C'est le verset « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Moi, cette invitation à être un, c'est aussi être invité à faire des liens de paix, à créer des liens de paix là où on pourrait être éloigné, et malgré toutes nos différences, c'est une invitation à se réjouir de tout ce qui nous réunit et de tout ce qui nous rappelle qu'on est, oui, fils et fille du même père.
Merci beaucoup d'avoir accepté de donner votre témoignage sur RCF,
merci
Anne
beaucoup.
Et Daniel. Bonne suite donc pour votre vie de couple, votre vie de famille. Merci.
Merci.
Merci.